Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Bourse Live, les rencontres, le e-salon dédié à la bourse avec cette année comme thématique où investir en 2022 dans un environnement de marché inflationniste et mis à mal par les tensions géopolitiques. Il n'est en effet pas forcément aisé de s'y retrouver. Pour mieux comprendre ce contexte, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Roland Laskin, journaliste financier et ancien rédacteur en chef du Figaro Bourse. Bonjour Roland.
Bonjour Sarah.
Roland, vous allez évidemment nous dire un mot sur ces marchés pour le moins agités ces derniers mois et vous nous présenterez en détail un outil pédagogique très utile, des portefeuilles virtuels, service réservé aux clients Boursorama et accessible sur le portail connecté de boursorama.com. Cette conférence est interactive, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions via la plateforme, nous en sélectionnerons quelques-unes à la fin de cette conférence. Roland, commençons par une question très simple. Dans un univers de marché compliqué depuis le début de l'année, inflation, virage des banques centrales, guerre en Ukraine, quelle attitude dois-je adopter en tant qu'investisseur individuel ?
Alors, vous l'avez bien résumé, on a un marché effectivement qui est difficile, très volatile, inflation, banque centrale, absence de soutien et peut-être là on voit déjà un ralentissement économique. On aura peut-être demain un début de récession avec des inquiétudes sur l'évolution des bénéfices. On va peut-être se demander si les actions, malgré la baisse, ne sont pas encore assez chères, trop chères plutôt. Donc on a un marché un petit peu difficile. Alors l'attitude à adapter, eh bien, c'est tout simplement de connaître sa tolérance au risque. Qu'est-ce que je peux supporter comme risque ? Et vous avez parlé de l'investisseur particulier. Et de ce point de vue, pour gérer un marché aussi difficile, les particuliers sont beaucoup plus armés en fait que les professionnels, contrairement à ce qu'on pense, parce que le particulier, lui, il n'est pas du tout tenu à répliquer un indice, un benchmark. Il est totalement libre, il n'est pas obligé de répliquer le CAC 40 ou un indice européen. Si les marchés sont agités, eh bien, il peut réduire la voilure. Hein. C'est un petit peu ce que font tous les marins de tous les temps. Quand il y a une tempête, on réduit la voilure. Et le meilleur moyen, la chose la plus simple, c'est tout simplement d'adapter son risque en réduisant
son exposition.
Et donc, c'est ce qu'on a fait sur les portefeuilles. On a commencé, nous, à réduire l'exposition dès la fin 2001. Et progressivement, on a fortement réduit. 2021 était plutôt faste. Et donc on a réduit progressivement et sur le portefeuille défensif, on détaillera ça tout à l'heure, on est arrivé à 80% de liquidité. Donc en fait, on a un portefeuille, les valeurs ont évidemment souffert, mais comme elles sont peu exposées, on a un portefeuille qui a très très bien résisté. Et l'autre attitude, évidemment, c'est de concentrer les portefeuilles, c'est de se recentrer sur des valeurs solides, avec une bonne visibilité. Le seul problème, c'est que dans cette crise, justement, les valeurs les plus solides, le luxe, par exemple, a plus souffert que les valeurs pétrolières ou matières premières qui sont
dites plus volatiles.
Ouais. Mais de façon générale, une fois qu'on a réduit la voilure, qu'on est moins exposé et qu'on est concentré sur des valeurs de qualité, pour parler simple, on est beaucoup plus armé pour faire face à ces difficultés.
Alors Roland, pour mieux appréhender l'univers des marchés, vous avez justement créé un outil pédagogique particulièrement utile pour les novices, en l'occurrence des portefeuilles virtuels. Alors pour les non-initiés qui sont en train de nous regarder, pouvez-vous nous en dire davantage Roland ?
Alors écoutez, la bourse est un monde précis, concret, et plutôt que de faire un long discours sur l'évolution des marchés, je me suis dit que très très tôt, finalement, le mieux, c'est de montrer aux lecteurs, aux abonnés. J'ai lancé ça quand j'étais au Figaro Bourse, on avait des abonnés, et donc j'ai lancé en début 2012 des portefeuilles. Et l'objectif, eh bien, c'était justement de familiariser les lecteurs, les abonnés, et aujourd'hui vos clients, les clients de Boursorama, à la gestion de portefeuilles. Comment on choisit, quel type de valeur on choisit en fonction de son profil de risque, quelle exposition,
secteur,
à quelle fréquence on fait des arbitrages, à quel moment on prend des bénéfices, il faut savoir vendre, mais aussi comment est-ce qu'on se coupe un bras, parce que ben, ça arrive, on se trompe, et à partir de moment, de quel moment on coupe. Nous, par exemple, on ne se laisse jamais embarquer à plus de 20% de baisse. On ne se pose pas de questions. Si un titre baisse de plus de 20%, on coupe la position. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est un outil pour accompagner les investisseurs novices ou bien ceux qui veulent, qui connaissent, mais qui veulent un petit peu tester leurs idées. Et c'est également
leur
important de voir leur stratégie, absolument. Et c'est également important de voir que dans le temps, c'est pas sur un an ou sur six mois, on voit aussi l'importance du dividende, l'accumulation du dividende constitue un élément important de la performance.
Et ça, forcément, en tant qu'investisseur individuel, c'est une donnée à laquelle on est sensible. Important. Alors, des portefeuilles qui vous permettent de simuler vos investissements, de tester des stratégies, de prendre des risques, mais sans risque, puisqu'il n'y a évidemment pas d'argent en jeu. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps et vous allez nous présenter ces portefeuilles à l'écran qui sont au nombre de 4. L'offensif, le défensif, l'ISR, le PEA Monde, consacré aux ETF, aussi appelés trackers. Peut-être qu'on va commencer par une chose fondamentale dans le langage financier. Offensif, défensif et le fameux acronyme ISR, qu'est-ce que ça signifie, Roland ?
Alors, le défensif, ça porte bien son nom. L'idée, c'est de vraiment de préserver le capital. Et évidemment de le faire progresser, mais surtout d'accumuler des plus-values, du dividende et essayer de bien résister à la baisse des marchés. Alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, là je vous fais confiance. Je vous propose de regarder tout de suite le défensif.
On parle défensif, oui.
C'est bon, c'est parti, on le voit. Alors, donc le défensif, vous voyez, aujourd'hui, on parlait de...
On peut peut-être juste nous confirmer en régie qu'on voit bien le portefeuille sur l'écran. Ok, c'est bon.
C'est bon, c'est parfait.
Alors, allons-y,
Roland. Donc, le défensif, on le voit à l'écran. Comme je disais, c'est un portefeuille... très, très concentré, il y a 7 valeurs, et je parlais de belles valeurs, de valeurs de qualité. On a vraiment là des sociétés françaises, Leonardo c'est une société italienne, européenne, c'est un portefeuille PEA évidemment.
Samvir
Liquide, Dassault Aviation que j'ai rentré récemment, et voilà, une petite baisse, j'ai acheté peut-être un petit peu tôt, L'Oréal, LVMH et Hermès. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les performances. Alors, justement, une petite chose...
Que le luxe est devenu des défensifs.
Voilà. Ouais. Alors, justement, ce portefeuille a beaucoup de liquidités, parce que depuis la création, on est parti à 100 000 euros début 2012. Aujourd'hui, on le voit à l'écran, on est à 292 500 000 euros. C'est quand même pas mal. C'est une multiplication par 3 du portefeuille. Et, comme je l'ai dit, en 6 mois, on a fortement réduit l'exposition du portefeuille. On a 23 300 de liquidités. C'est très, très fort. Alors maintenant, il faut faire attention parce que si le marché repart, on va se faire distancer. Mais vous allez voir que ça nous a permis vraiment de très, très bien résister à la baisse des marchés. Alors, les performances, on va essayer de se comparer au CAC 40. Voilà, donc ça c'est le portefeuille depuis le début.
Bon,
c'est pas mal, on a une belle performance, on a le CAC qui a fait un petit peu moins de 100%, on va dire qu'il a doublé, nous on a triplé, c'est normal, on a été prudent et surtout on accumule du dividende, et ça dans le temps ça compte.
Voilà. Surtout sur les
donc ça c'est sur le long terme, et sur la stratégie à court terme on va regarder sur un mois, vous savez que le marché a beaucoup baissé ces derniers temps, mais voilà. Donc le fait d'être peu exposé sur le marché, d'avoir ces fameuses valeurs de qualité, même si elles ont beaucoup baissé, c'est un peu paradoxal, généralement les valeurs de qualité résistent bien, mais là elles étaient très très chères, vous connaissez l'histoire. Boursière récente, les valeurs de luxe avaient beaucoup monté, elles étaient fortement valorisées, évidemment.
Elles sont impactées par les taux, forcément.
Voilà, absolument. Ouais. Mais il n'empêche que comme l'exposition est faible, on a une baisse sur un mois à peu près de 2%.
Ouais, donc une résistance quand même.
Une bonne résistance, sur 3 mois, sur 3 mois, ça se passe pas mal non plus. Voilà, on a un peu moins de 2%.
Donc finalement, un portefeuille défensif composé de 8 valeurs, c'est ça ?
Absolument, 7. Enfin, réduit à 7 valeurs. On en a plutôt généralement, en rythme de croisière, on en a entre 10 et 12. Là, j'ai parlé de concentration des portefeuilles, c'est vraiment la gestion défensive type dont on parlait. Sur 3 mois, on a fait mieux. Et si on va sur 1 an...
C'est finalement des entreprises avec un business model solide et qui ont ce qu'on appelle le fameux pricing power.
Absolument, pricing power, business solide, pas de dette et évidemment aucun élément spéculatif dans le choix des valeurs. Sur 1 an, on est à 0. Donc c'est quand même bon, c'est pas formidable. Hein, on pourrait monter plus, mais bon, 0, c'est pas mal, surtout quand le CAC 40
quand on a un marché effectivement
a pas mal baissé. Sur 10 ans, on l'a vu
donc
tout à l'heure.
Donc en tout cas, on le voit bien à l'écran. Enfin, on peut effectivement regarder la performance. Voir l'évolution de ce portefeuille, d'avoir tout l'historique, regarder les valeurs.
Absolument.
Et si je ne m'abuse, chaque semaine, vous réalisez aussi des arbitrages, des points
tout
de marché qui sont disponibles sur le portail connecté de Boursorama. Est-ce que on passe à l'offensif ?
Alors, on va passer à l'offensif.
Offensif.
Donc là, on passe du défensif à l'offensif. Oui. On passe dans un autre monde, mais c'est intéressant. Ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors l'offensif, lui, on va voir dans les performances qu'il est beaucoup plus volatile.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal, absolument. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme il est offensif, il est beaucoup plus exposé au marché, puisque la valeur totale du portefeuille, c'est 304 000 euros. Ouais. Bon, pareil, il a une belle performance. On est parti, je vous rappelle, de 100 000, on est à 300 000. Donc sur 10 ans, encore une fois, le dividende joue beaucoup là-dedans. Il n'y a pas que les plus-values en bourse, il faut toujours le répéter. Et là, vous voyez que les liquidités sont assez faibles. Il y a à peu près 15% de liquidités et il est vraiment... très investi, et du coup, il est investi dans des valeurs assez spéculatives, très tôt dans l'année. J'ai retourné totalement les positions et je me suis mis sur tout ce qui est pétrole et matières premières.
Une exposition finalement française et européenne aussi.
Française, européenne, mais absolument. Ouais. Mais bon, en fait, c'est du PEA, donc beaucoup de. Dans la crise, j'ai préféré un petit peu me recentrer sur les valeurs françaises qu'on connaît bien. Et je crois que c'est un réflexe d'expérience qui est assez courant. Quand tout va bien, on va chercher un peu plus loin. Quand ça va mal, vraiment, c'est toujours l'idée de recentrer les portefeuilles. Voilà.
Mais on est dans une démarche quand même beaucoup plus opportuniste. Alors là, on est
opportuniste, on peut même dire spéculative, parce que je me suis vraiment mis, même avant la crise ukrainienne, qui a vraiment changé totalement la donne et fait exploser le prix du pétrole, on avait remarqué un démarrage des valeurs pétrolières, et donc je me suis mis sur ces valeurs. Ça a très très bien marché depuis, mais depuis 15 jours, ça marche un peu moins bien, parce que le pétrole est très volatile. Et donc, on va passer aux performances. Alors, vous allez voir qu'elles sont pas mal, mais c'est plus du tout le monde. On va se comparer encore au CAC 40.
C'est vrai que, et c'est le thème d'ailleurs de notre Bourse Live, les marchés évoluent très vite. C'est pas forcément
très vite,
évident
absolument.
De.
Absolument. Voilà. Alors, sur le long terme, tout va bien. Sur 10 ans, très belle performance. Mm-hmm. Pareil, on arrive à un résultat proche du défensif avec une.
D'ailleurs, vous le dites, 10 ans, très bien, dans la mesure où c'est de l'investissement de long terme, la bourse.
Absolument.
Donc, in fine, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Peut-être pas les 6 mois, mais ce sera d'ailleurs peut-être un des messages clés.
Tout à fait, peut-être. Alors, sauf quand on est boursier, on dit ça, mais on est quand même très attiré par l'évolution. Peut-être pas au jour le jour, mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment regarder son portefeuille toutes les semaines. C'est vraiment, voilà. Donc, sur le long terme, tout va bien. On a une très belle performance. Et on va voir, là, justement, je vous parlais du prix du pétrole qui a baissé. Ben là, voilà, je fais moins bien que le CAC sur un mois. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est un portefeuille spéculatif.
Et en même temps, c'est aussi des stratégies que vous testez sans
tout à fait, c'est absolument,
qu'il y ait d'impact,
c'est,
puisque tout
à
est
fait.
Virtuel.
Tout à fait, tout à fait. Sur 3 mois, pareil, c'est pas, voilà, je fais le CAC. Et donc sur 1 an, on va voir. Vous voyez, c'est quand même très volatile. On voit vraiment là.
Effectivement, on voit les piques.
Voilà.
Même pour une personne non expérimentée, je crois qu'on voit bien.
Voilà.
Effectivement,
on parlait au début de tolérance au risque. Ouais. Si vous êtes pas très très à l'aise avec une stratégie offensive, rester sur une stratégie défensive, c'est surtout effectivement si on travaille sur le moyen long terme. terme.
Il faut, voilà. Donc deux stratégies, effectivement, en fonction de son appétence au risque, on ne le dira jamais assez. Roland, on voit bien en fait le travail effectué sur ces portefeuilles. Certains d'ailleurs ont été créés, vous l'avez rappelé, il y a une dizaine d'années.
Oui.
On a peut-être envie d'en savoir davantage sur votre méthode, comment vous sélectionnez vos lignes de portefeuille. On imagine que peut-être à la manière d'un gérant, que vous analysez les fondamentaux d'une entreprise, on en a déjà un petit peu parlé, que vous tenez compte bien évidemment du contexte économique, vous effectuez des arbitrages. Voilà, dites-nous tout, quels sont vos secrets.
Alors sur les arbitrages, j'ai fait beaucoup d'arbitrages sur les portefeuilles offensifs et je bouge beaucoup moins évidemment sur les défensifs. Tout ça, c'est assez logique. Alors, en fait, il y a deux aspects dans la sélection des valeurs. D'abord, il y a une partie fondamentale. Évidemment, on regarde la qualité des sociétés, leur pricing power, vous en avez parlé, leur structure financière, leur capacité de croissance. La croissance est très importante.
Structure financière, ça signifie quoi ? Est-ce que le bilan est sain ? Est-ce que la société est endettée ?
Écoutez, moi, je n'aime pas beaucoup les valeurs très endettées. Et par expérience, je me suis toujours méfié des valeurs endettées, même quand les taux étaient très très bas. Les valeurs qui avaient des structures financières très saines ont toujours surperformé le marché.
Alors la tech, c'est pas forcément votre...
Alors là, aujourd'hui, on a une tech qui marche bien. C'est plus la tech du début des années 2000. Et les grandes techs américaines sont vraiment des coffres forts de liquidités, de trésorerie. On n'est plus du tout dans le modèle...
On va
revenir sur la tech. En tout cas, donc, bien regarder l'aspect fondamental. Et surtout les perspectives de croissance. Là, on voit les courbes sur le long terme. Vraiment, s'il n'y a pas de croissance, c'est vraiment très difficile de faire de la performance sur le long terme. Par exemple, là, je vais jouer les valeurs pétrolières. Ça a bien marché sur 5 mois. Mais si on regarde sur le très long terme, c'est pas une bonne performance.
On aura aussi des conditions, l'impact de nouvelles réglementations aussi écologiques qui contraignent.
Donc là, c'est vraiment ponctuel. Et on voit bien que le ponctuel, je vous ai montrer les performances de l'offensive, quand ça baisse, ça peut baisser assez violemment. Donc bien penser, c'est pas la peine de faire des calculs économétriques très compliqués, mais bien rechercher la visibilité et la croissance.
D'accord.
C'est vraiment, voilà. Ça, c'est l'aspect fondamental. Et l'autre aspect, c'est qu'on a quand même tous besoin d'outils d'aide à la décision. Et donc la plupart des investisseurs parlent d'analyse technique. L'idée, on connaît tous les grandes figures de l'analyse technique.
Alors c'est quand même, vous pouvez peut-être en rappeler les fondamentaux, c'est quand même réservé à un public déjà un peu d'initié.
Tout à fait, alors c'est réservé à un public d'initié, et si on n'est pas initié, on peut se tromper parce qu'on reste aux recherches des figures types, et on peut se planter, pour parler clairement. Donc l'analyse technique, c'est assez... c'est un petit peu dangereux. Moi, je préfère utiliser des modèles de momentum. L'idée, c'est un petit peu comme le Tour de France. Il faut rester dans le peloton. Il faut vraiment... c'est pas la peine d'aller chercher... Il vaut mieux suivre un marché qui monte plutôt que de prendre...
De jouer contre la tendance.
La tendance. Donc, en fait, c'est pas une stratégie de gagne petit, même si on rate souvent le démarrage de la hausse. Moi, tous mes modèles sont des modèles de momentum, donc en fait, sont des modèles effectivement assez mathématiques qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Et donc, l'idée, c'est de repérer les tendances qui naissent, les laisser s'exprimer, qu'elles puissent avoir donné une bonne image, un élan réel, et là, on se met dessus. Et justement, quand on est sur le moyen long terme, ce sont vraiment des techniques...
On voit des tendances haussières, ça peut être une technique intéressante.
Voilà. Et le momentum marche également à la baisse. On voit très très vite quand on a une tendance baissière qui se met en place. Ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les références, l'analyse technique. On voit très très bien, une fois que le momentum baissé se met en place, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à réduire. La réduction des positions sur ces portefeuilles, je n'ai pas réduit du jour au lendemain de 100 à 0 ou à 20%. On réduit progressivement.
Progressivement.
Donc il vaut mieux être suiveur en bourse
parfois plutôt que voilà, de penser par soi-même et d'aller contre.
Voilà, d'accord. Tout à fait.
Surtout quand on n'est pas un professionnel.
Absolument. Initier une tendance, c'est toujours difficile.
Bon, on a vu tous les atouts finalement de ces portefeuilles virtuels. Toutefois, Roland, ils ont aussi leurs limites.
Oui, alors évidemment, c'est virtuel. Et la grande différence, en fait, entre un portefeuille virtuel et un portefeuille réel, c'est que d'un côté, ben, il n'y a pas d'argent en jeu, et dans l'autre, évidemment, on met ses économies, après avoir payé tous les impôts, c'est un petit peu ce qui nous reste, on n'a pas envie de gâcher ses économies. Donc en fait, le meilleur moyen d'utiliser cet outil, c'est de démarrer avec un portefeuille, même assez petit, enfin c'est pas la peine de mettre du jour au lendemain, si on veut démarrer toutes ces économies. Il vaut mieux démarrer sur le réel tout de suite, avec une petite somme.
Plutôt que de tester des stratégies,
jamais se tester. En plus, on peut, si vous voulez, l'idée selon laquelle, ça y est, j'ai compris, j'ai testé pendant 6 mois, ça marche, c'est pas si simple. Il vaut mieux démarrer sur une base faible en réel et la faire évoluer tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, et parallèlement tester ses stratégies et, par exemple, utiliser ses portefeuilles bien différenciés, le défensif, l'offensif, et voir ce qu'on peut faire, comment on peut travailler ces deux stratégies. Après, on n'a pas trop le temps, mais on pourra parler des autres portefeuilles. Mais si vous voulez...
En fonction de sa sensibilité, voilà, on parlait d'ISR.
Absolument, tout à fait. Mais si vous voulez, le meilleur moyen d'utiliser cet outil, c'est de démarrer assez tôt avec un petit portefeuille réel.
Et à côté.
Et puis, à côté, suivre le rituel. À mon avis, c'est le meilleur moyen de pouvoir monter une stratégie plutôt cohérente et gagnante.
Vraiment en parallèle. Pour justement ne pas ensuite être surpris le jour où on se lance par ce facteur stress qui est quand même très important, a fortiori cette année, avec des marchés qui dévissent.
Et évidemment, on est moins stressé si on a moins d'économies, moins d'argent en jeu. Et ensuite, au bout de quelques années, on peut avoir un capital qui grossit par lui-même, et évidemment qu'on peut apporter de nouvelles liquidités.
Progressivement, oui. Merci Roland pour la présentation de ce service. Alors pour conclure, on va peut-être rappeler des fondamentaux. Quels sont les éléments à retenir lorsque l'on débute en bourse?
Alors, je dirais que on peut dire beaucoup de choses, mais l'élément le plus important, il faut savoir qu'en bourse, son propre ennemi, c'est soi-même. On a souvent tendance à se persuader qu'on a trouvé la bonne idée, le bon secteur. Il faut savoir qu'en bourse, la bonne idée, c'est celle qui marche, celle qui est validée par le marché.
Donc il faut être modeste.
Il ne faut jamais s'enferrer, dire j'ai la bonne idée. Non. D'accord. En fait, si l'idée n'est pas validée, alors pas au bout de 3 jours, mais si au bout de 3-4 semaines, elle n'est pas validée, il faut commencer à se poser des questions. Je vous ai dit au début qu'on coupait les positions de façon automatique, les yeux fermés, 20% de baisse.
On part. On va pas
s'obstiner. Même si on pense avoir la bonne idée, c'est très important d'avoir ces réflexes assez sain. Donc, le principal ennemi, c'est vous-même. Il ne faut pas s'enferrer. Il faut toujours être à l'écoute du marché et valider ses idées par l'évolution des cours. Peut-être pas au jour le jour, mais vraiment au bout de 3-4 semaines, on voit très très vite si ça marche ou pas. Là, vous avez vu que j'ai mis Dassault Aviation. Voilà, je l'ai acheté il y a, je crois, 3-4 semaines. J'ai perdu 9%. Je ne suis pas inquiet.
Oui, mais là...
Mais si ça baisse encore, je vais
vous
couper. Je ne vais même pas poser la question.
Ouais. Voilà. OK. Très bien. Et puis, évidemment, se renseigner sur l'actualité des sociétés, le contexte économique, enfin, tous les fondamentaux.
Alors, tout à fait. Il faut évidemment suivre les marchés. C'est peut-être pas la peine non plus d'avoir... Ça, c'est un autre conseil à donner. C'est pas la peine de le matin, sauter du lit et aller voir son portefeuille. C'est pas la peine parce que, finalement, on se crée du stress pour pas grand-chose. Il faut le suivre. Il y en a qui le suivent le week-end. Au moins, ils sont pas... Ils ne sont pas perturbés. Et donc, il faut suivre le marché, mais pas de... Vraiment, le stress, et c'est très, très important. Surtout une fois qu'on a un capital qui commence à devenir plus conséquent sur le marché. Il faut être assez décontracté. C'est très, très important de ne pas paniquer, de dominer ses émotions.
Très bien. Je rappelle d'ailleurs une nouvelle fois que vos portefeuilles sont à retrouver dans Boursorama, dans l'espace connecté, sous le nom Objectif Rendement. Roland, si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions. Alors, première question de Jean-Pierre, je ne sais pas si elle s'affiche sur la plateforme. Alors désolé, je ne vois pas où se trouvent les portefeuilles virtuels sur le site de Boursorama. Bon, écoutez, je le redis, boursorama.com, vous devez être client, vous allez dans la section bourse et vous trouverez le provider Objectif Rendement et vous y retrouverez tous les portefeuilles de Roland. Peut-être une autre question, Robin, dans le contexte, c'est une question de Robin, pardon, dans le contexte actuel, sur quelle valeur faut-il miser? C'est pour vous celle-ci, Roland.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de belles valeurs. Hein, il se trouve justement qu'aujourd'hui, les belles valeurs ont été attaquées. On en a parlé. Elles ont beaucoup monté. Elles étaient très, très chères, les valeurs de luxe. Ouais. Donc, peut-être qu'on n'est pas totalement au bout de la baisse. Donc, je n'irai pas encore sur ces belles valeurs de luxe. Sur le pétrole, c'est très volatile. Les matières premières, il fallait peut-être les jouer un petit peu plus tôt. On peut en avoir, mais... Mm-hmm. Il ne faut pas rêver, hein, on va pas non plus, ça ne va pas monter au ciel cette affaire. Donc moi j'essaierai de revenir tout simplement, d'aller rechercher des valeurs qui ont baissé, qui sont de qualité et surtout qui ont des perspectives de croissance. Mmh. Et dans le cadre d'un PEA, j'irai plutôt voir du côté des valeurs technologiques, par exemple une société comme Dassault Systèmes. Okay. Voilà, moi c'est une société qui n'est pas en portefeuille, d'ailleurs que j'ai eue pendant pas mal de temps. Et là, je commence à regarder belles perspectives de croissance, un vrai pricing power, mm-hmm. Des cours qui ne sont pas effondrés, mais qui ont baissé d'une
pricing
trentaine
power,
de pourcents.
Pricing power, vous pouvez peut-être nous rappeler. Donc
c'est... En fait, c'est tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'inflation, des coûts de production qui augmentent. On aura peut-être demain une récession. Donc, c'est très important d'aller choisir des sociétés qui sont capables
d'impacter leur marge.
Voilà, et de résister à cette baisse, d'avoir des marges qui vont bien résister. Des marges qui s'effritent, c'est vraiment, ça va mener à une révision à la baisse des perspectives bénéficiaires. Ça, c'est très, très mauvais. Aujourd'hui, une valeur comme Dassault Systèmes, elle baisse parce qu'elle était chère. Et il y a un stress des marchés dans sa baisse, mais il n'y a pas, à mon avis, pour l'instant, d'inquiétude sur l'évolution des bénéfices. Donc il faut vraiment trouver ce type de valeur. Je pensais toujours dans le PEA, et celle-là, elle est en portefeuille, c'est STM,
STMicro. Ouais.
Voilà, c'est une très très belle valeur. Celle-là, l'ai en portefeuille,
semi-conducteurs.
C'est une valeur qui a pas mal baissé. Je pense qu'on a là-dessus un beau potentiel. Et donc ça, c'est la première, deux exemples hein, dans les PEA du côté des technos. Et j'irai également regarder de façon un petit peu traditionnelle des valeurs qui sont capables justement de défendre leurs marges.
D'impacter finalement les coûts de production, la hausse des coûts sur leurs clients.
Absolument, et qui seront peut-être capables de résister si demain il y a une baisse de l'activité réelle, à la fois consommation ou investissement. Donc je pensais évidemment à Air Liquide. Air Liquide, c'est vraiment la valeur incontournable quand on est un investisseur particulier, quand on débute. C'est pas une légende, c'est vrai. C'est une valeur qui a vraiment une capacité de résistance hors du commun et surtout une bonne connaissance d'un investisseur particulier. Mmh. C'est la valeur du CAC 40 qui a la plus grosse proportion d'investisseurs particuliers. Tous les deux ans, on a une action gratuite.
On
pourra refaire une émission entière sur l'Air Liquide.
Dédiée à Air Liquide.
Et voilà, on est plusieurs à être fans de la valeur et c'est vrai qu'elle est pas mal. Je pensais également dans le secteur automobile qui a beaucoup baissé, à Michelin, parce que Michelin est sur le secteur du pneumatique et évidemment, alors il y a eu les matières premières ont beaucoup impacté, ça a beaucoup augmenté. Michelin a baissé, mais historiquement, c'est une valeur assez ancienne. Il y a eu beaucoup de crises, notamment sur les matières premières. Et Michelin a toujours réussi à défendre ses marges, pourtant sur des valeurs comme des pneus, qui sont des produits apparemment simples. En réalité, ce sont des valeurs, des produits assez technologiques et ils se débrouillent très très bien. Autre valeur, c'est Schneider Electric.
Ouais.
Schneider Electric qui a également baissé, mais qui est dans le... dans tout ce qui est service de gestion de l'énergie, on est là sur un marché très porteur avec de belles perspectives. Et là, c'est une valeur qui a également baissé, non pas parce qu'on craint une révision des bénéfices, mais parce qu'elle était un peu chère et elle a baissé. Voilà, c'est ce genre de type de valeur que j'ai pas en portefeuille en ce moment, mais que je regarde soit faire liquide, évidemment.
Alors, il nous reste 2 minutes. On va prendre deux dernières questions, pardon, mais rapidement. Dans la mesure où on a beaucoup perdu car on avait des valeurs exposées, doit-on attendre que ça remonte ou doit-on adopter une position de repli? Et dans ce cas-là, ne risque-t-on pas de rater la période où les valeurs vont remonter, Roland?
Alors, si on a beaucoup perdu, c'est qu'on est très investi.
Oui.
Alors, vous savez, on ne sait pas si les marchés sont au bout.
Oui. De toute façon, vous n'avez pas de boussole non plus.
Hein. On n'a pas de boussole. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant en bourse, c'est que personne ne sait demain ce que fera le marché. On peut avoir des discours, mais bon, finalement, ce que fera le marché, on ne sait pas. Donc, en fait, celui qui est pris dans la baisse avec 100%, il faut qu'il essaie légèrement, là, c'est un peu tard, de vraiment liquider. Ce serait vraiment dommage. Je continuerai sur rebond à légèrement réduire les positions. C'est trop tard pour arriver, comme moi, sur les portefeuilles à 80% de liquidité. Oui. Là, on perdrait trop.
D'accord.
Je réduirais, j'irais de 100 à 80, parce qu'effectivement, le problème, et moi, je vais être confronté à ce problème, c'est que j'ai beaucoup réduit les positions, mais si demain, le marché remonte fort, je vais être rattrapé par le marché. Donc, effectivement, ça, c'est la deuxième partie de la question. Il faut être également présent en bourse pour ne pas rater le rebond.
Présent pour pas,
voilà.
Ouais.
Voilà, donc moi je vais très très vite.
Donc ne jamais sortir finalement.
Absolument, il ne faut jamais sortir totalement du marché.
On en revient aux fondamentaux, ne jamais stresser.
Absolument.
Alors, dernière question, ça va vous intéresser. À quel moment faut-il passer au portefeuille réel? Vous l'avez dit, en fait.
Oui,
dès le début.
Mais c'est ça. Enfin, le virtuel, c'est un bon outil, mais il ne faut pas croire que je l'ai suivi 1 mois, 6 mois, ça y est, je suis bon, j'ai tout compris. Non, il faut vraiment en permanence, ce n'est pas tout à fait la même sphère, évidemment. Je crois qu'il faut, encore une fois, je répète, il vaut mieux démarrer avec un vrai portefeuille modeste et puis travailler soit avec mon outil qui peut être utile, qui peut donner des idées, et soi-même développer son portefeuille virtuel. Mais il faut toujours avoir un contact avec le réel, autrement, on est un peu hors sol, là, et c'est jamais très bon en bourse d'être hors sol.
Merci encore, Roland. Vous allez être, enfin, tant qu'à vous, vous êtes désormais paré pour basculer dans le monde réel de la bourse. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle conférence sur Arkema cette fois-ci. Merci encore, Roland.
Merci, au revoir, à bientôt.
À tout de suite.